C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bonne journée, bienvenue au 98.5. Pas très chaud ce matin, 2 degrés seulement. Partiellement nuageux et on a de la neige. Évidemment, on parle pas de quantité importante, quelques flocons. Beaucoup d'auditeurs m'écrivent, disaient Saint-Adèle, mais également dans l'ouest de l'île, dans le bout de Valleyfield aussi. Et je pense qu'il y a bien des gens qui sont surpris de la présence de la neige ce matin. Ça devrait se transformer rapidement en pluie. Il y aura des averses en mi-journée. Pour la nuit prochaine, c'est moins 2 degrés. Alors, c'est vraiment une période assez froide. Demain, jeudi, belle journée, 11 degrés, ensoleillé. Et on termine la semaine avec 15 degrés, encore là du temps couvert, un peu de pluie. Pour la fin de semaine, jusqu'à maintenant, samedi, c'est une superbe journée. On prévoit une alternance de soleil et de nuages, 22 degrés. Vous voyez que ça change rapidement. Et puis dimanche, il y aura de la pluie une bonne partie de la journée avec 11 degrés. Puisqu'on parle de météo, ben on surveille, on se prépare pour ce qui est des inondations. On surveille la crue des eaux. Et vous le savez, il y a plusieurs régions qui sont touchées. On peut penser aux Laurentides de la Naudière. On regarde du côté, par exemple, de Saint-Colomban, où il y a déjà des secteurs inondés. Et la plupart des autorités municipales sont vraiment en deux modes. C'est-à-dire qu'on surveille le niveau de l'eau, puis en même temps, on distribue des sacs de sable, on se prépare. Et évidemment, la météo va jouer dans les prochains jours, la prochaine semaine. Puis il y a des gens qui... j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui vient d'aménager. Après la COVID et grâce au télétravail, beaucoup de gens ont décidé d'aller s'établir un peu plus loin. Et là, ils découvrent finalement qu'il est dans un secteur où c'est pas, je dirais, un très grand risque d'inondation, mais c'est présent. Et c'est surtout de voir comme ça ces préparatifs. Pour Montréal, ben, on est en, comme on dit, stand-by dans plusieurs arrondissements où il y a des cours d'eau importants. On peut penser à Rivière-des-Prairies, par exemple, Montréal-Nord, puis aussi dans l'ouest de l'île. Maintenant, parlons de la grève des fonctionnaires fédéraux telle que prévue, ça a été déclenché à minuit. Alors, donc, ça veut dire que à travers le pays, le système fédéral est au ralenti. Il y a des services essentiels qui sont assurés. Là, on peut penser aux douanes, on peut penser à l'immigration. Mais la question que vous vous posez, pour ce qui est, par exemple, du traitement des déclarations de revenus, pour ce qui est de l'assurance-emploi, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce serait, je dirais, étonnant qu'il n'y ait pas d'impact. Puis je le dis sans trop de méchanceté, mais même quand le système est avec 100% des effectifs, c'est pas toujours un succès là. Et il peut y avoir des lenteurs administratives. Donc, quand vous regardez concrètement quels sont les ministères, puis il y aura point de presse ce matin, entre autres, la ministre du Revenu, Mme Leboutillier. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes à l'assurance-emploi, à l'immigration, le fameux dossier des passeports. Pour les gens qui attendent, et souhaitons que ce conflit de travail ne, je dirais, s'éternise pas, là. Mais on peut penser que, par exemple, pour certains services, approvisionnement Canada, bref, il va y avoir un effet, un impact. Maintenant, justement, combien de temps le gouvernement va tolérer la situation? Puis est-ce qu'un règlement est possible? Je rappelle les deux enjeux importants, la paye et le télétravail. Et pour ce qui est des salaires, c'est sûr qu'il y a un écart qui est quand même, disons, important. On parle de, comme demande syndicale, en tout cas les dernières, là, on sait qu'il y a eu quand même des discussions hier, 13,5% sur 3 ans, alors que l'employeur propose 9%. Et c'est donc une différence. Et le télétravail, c'est qu'on demande de établir un cadre. Et comme dans beaucoup de secteurs, beaucoup d'employés ne veulent plus revenir à du 5 jours par semaine au bureau. L'employeur va proposer une journée, 2 jours, des fois 3, ça dépend. Mais c'est terminé dans la plupart des entreprises où c'est pensable, puis dans les services gouvernementaux, une présence au bureau 5 jours semaine. Ça n'arrivera plus, là. Et c'est de trouver une façon. Puis là, il y a beaucoup de gens qui protestent, qui disent que c'est moins efficace le télétravail, d'autres qui disent non, 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 c'est aussi efficace. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des principales demandes des syndicats. Parlons maintenant de Catherine Fournier. Donc, hier matin, l'interdit de publication a été officiellement levé. C'est donc elle la victime du député Harold Lebel, député qui a été condamné à la prison, qui a fait un très court séjour en prison pour agression sexuelle. Et c'est important ce qu'elle soulève dans son documentaire que j'ai regardé, puis on va la recevoir ce matin. Mais il y a un certain nombre de questions là importantes. D'abord, puis il y a une lettre ouverte en plus dans le Devoir ce matin, ce qu'on appelle la protection de l'identité. Les victimes d'actes criminels, les victimes d'agressions sexuelles, surtout, ont, dans la plupart des cas, là, à 100% le droit à ce que leur identité soit protégée. Sauf que dans son cas, ben, il y a des médias qui ont fait des fuites et, comme disait un des intervenants dans le documentaire, tu fais un recoupement. Tu sais, la date, la période de l'année, le statut, quelqu'un de l'Assemblée nationale, bon. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont rapidement su que la victime était Catherine Fournier. Alors, comment protéger mieux une victime d'agression sexuelle? Et on a compris la démarche, là. D'abord, de garder ça pour elle, de dire aux femmes de dénoncer, puis elle-même victime de ne pas le faire, l'espèce de contradiction qui devait l'habiter, et de finalement aller le dire et de passer pour celle qui s'en prend à quelqu'un que tout le monde aime, au Parti québécois, Harold Lebel, de peut-être nuire à sa carrière au sein du parti. Donc, c'était important pour elle, je pense qu'elle a raison, là, de protéger son identité. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait avec un député qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle pas d'une allégation là, comme Jerry Slavounos qui avait été sorti du caucus. Que le Parti québécois, devant l'accusation, expulse, et c'était la seule décision à prendre, là, Harold Lebel, c'est une chose. Mais est-ce qu'on lui permet de siéger? Puis là, l'agresseur présumé peut pas être en contact avec la victime présumée. Alors, il siège, elle ne siège pas. Je comprends qu'il y a eu la COVID puis que le problème s'est réglé. Mais quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle dans la plupart des emplois là, va être relevé de ses fonctions avec salaire. Et je pense que c'est sûr que les députés de l'Assemblée nationale ont une réflexion à faire sur la façon de traiter ce genre de dossier. Certain nombre de questions, et j'ai eu beaucoup de commentaires hier, beaucoup de courriels. Et Catherine Fournier dit qu'elle a été bien reçue par les enquêteurs, qu'ils ont été très corrects avec elle, qu'ils l'ont aidée à d'abord expliquer ce qui s'est passé, puis de l'accompagner dans les procédures. Il y a une femme qui m'a écrit qui a été victime d'agression, qui a porté plainte, puis qui n'a pas eu le même privilège. Et c'est un peu ce qu'elle soulève. Est-ce que c'est parce que c'est une députée? Est-ce que parce que c'est quelqu'un qui est de notoriété, en fait, qui est connu, là, que elle a eu un meilleur traitement? Je pense pas. Je vais vous le dire sincèrement. Je dis pas que ça peut pas jouer, mais je connais des gens qui ne sont pas connus, là. En fait, qui ont pas, c'est pas une députée, c'est pas, puis qui ont quand même été bien accompagnés. Puis il y a des gens aussi pour qui ça a mal tourné. Puis des gens qui me disent comment ça se fait que Roson, lui, puis comment ça se fait que Salvaille ont été acquittés. C'est un peu ça. Ça dépend de la preuve qui est présentée. Ça dépend de la façon dont on va débattre de la cause. Et l'autre commentaire qui est revenu. Puis je vous le dis là, très sérieusement. Pourquoi Catherine Fournier, qui est une jeune femme forte, dynamique, qui a du panache, n'a pas quitté les lieux? Pourquoi elle est restée, comme elle dit, complètement figée par les gestes posés par un ami, un mentor, qui se sont quand même étirés sur plusieurs heures, donc jusqu'au matin très tôt? Pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi elle ne s'est pas poussée? Cette question-là, là, courriel après courriel, je la reçois. Dans le documentaire, je pense que vous allez comprendre. Et on a souvent, comme réaction, je dirais le réflexe de dire, moi, voici comment j'aurais réagi. Si quelqu'un me fait ça, là, voici comment moi je vais réagir. Ça, c'est en théorie. Parce que quand ça arrive, vous n'avez peut-être pas la même réaction. Puis il peut y avoir une série de contextes. Mais l'important, au bout du compte, est-ce que c'est vrai ce qui est arrivé? Il y a un jury qui a décidé que oui. Puis c'est un jury, là, à Rimouski, où Harold Lebel était le député depuis des années, puis un gars extrêmement populaire. Et je pense que au final, Catherine Fournier, elle soulève beaucoup de points importants. Puis hier, j'ai vraiment retenu, là, je disais un peu comment ça se fait que Lebel continue de siéger. Le PQ l'a expulsé, mais lui reste député, là. Puis il va se prononcer sur des projets de loi. C'est une maudite bonne question. Et la protection aussi. Je vais vous raconter une anecdote. Quand Dave Hilton a été accusé d'agression sexuelle sur ses filles, à l'époque, puisqu'on nommait Dave Hilton, on ne pouvait pas dire que les victimes étaient ses filles. Si vous saviez le nombre de gens qui nous demandaient « Mais où sont les parents des victimes? Comment ça se fait que les parents des victimes ont laissé leurs filles dans l'entourage de Dave Hilton? » On ne pouvait pas leur dire, c'est parce que ce sont les filles de Dave Hilton. Le parent, c'est l'agresseur. Puis on le suit à un moment donné, parce que dans ce cas-là aussi, les filles ont demandé la levée de l'interdit de publication. Le troisième lien, c'était écrit dans le ciel. C'est terminé. Officiellement, on va avoir l'annonce jeudi, mais évidemment, Québec est allé d'une bonne stratégie, c'est-à-dire on coule l'info. Puis là, les gens réagissent tout de suite. Alors, mardi, fin de journée, on va en placoter aujourd'hui. Et puis, demain, jeudi, Geneviève Guilbeault va faire l'annonce. Rappelez-vous de sa phrase. « Quand j'aurai quelque chose d'intelligent à vous dire, ben, je vous le mentionnerai. » Et ça va se passer demain. Alors, qu'est-ce qui est retenu? C'est un tunnel, un tube dans le fond pour le transport collectif. Et pas pour les autos. Je vous fais entendre quelques déclarations des ténors de la CAQ qui vantaient ce fameux troisième lien.
T'as juste besoin d'être dans ton char, dans le trafic, puis tu la vis, la maudite attente, et elle est de plus en plus longue.
Un projet estimé à 6,5 milliards de dollars.
Parce qu'on a besoin d'un troisième lien, là.
Le projet de tunnel Québec-Lévis, premièrement, est un engagement fort de la CAQ.
Le tunnel va être sur deux étages, donc il va avoir trois voies dans chaque direction.
Je sens un certain consensus, au moins pour les deux voies sur quatre, pour le transport en commun. Je sens un consensus.
Alors, l'expression consacrée, voici des vire-capots, des gens qui ont promis des choses aux élections, qui l'ont répété, qui l'ont martelé, qui l'ont présenté comme un ballon, puis qui ont dit « Hey, c'est un engagement fort, ça ». Alors qu'on sait que ça tient pas la route. On a eu droit à la saga des études. Avez-vous des études? Non, on va les avoir. Ah, on les a pas encore. Ah, finalement, on les a. Mme Guilbeault nous a dit ça la semaine dernière, qu'elle avait les études, puis qu'elle attendait d'en prendre connaissance. En résumé, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas l'achalandage qui justifie des travaux d'infrastructure de cette nature qui coûteraient des milliards des milliards. On a juste à voir le fameux pont de l'île aux tourtes. Et donc, malgré, disons, l'euphorie qui entourait ce projet, là, peut-être, puis je pense sincèrement aussi que même dans la région de Québec, les gens se sont un petit peu calmés devant ce projet-là. Alors, c'est de développer un lien de transport collectif de centre-ville à centre-ville, puis il y a le projet de tramway aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se sentir trahis par cette décision de la CAQ. L'inflation, petit refroidissement, c'est peut-être, là, grosso modo, en deux ans, le niveau le plus bas, mais tous les experts semblent dire que c'est pas suffisant pour amener une baisse des taux d'intérêt. Puis il n'est pas impossible même que d'ici la fin de l'année, en raison d'une certaine surchauffe, que les prix repartent vers le haut et que on se retrouve avec, par exemple, le prix de l'immobilier un peu plus dans une période inflationniste. Le panier d'épicerie, ben ça coûte quand même encore assez cher. L'augmentation sur une base annuelle, c'est en bas de 10%, là, mais pas loin, 9,7%. Alors, dans les prochaines semaines, on verra un peu, prochain mois aussi, si on va assister peut-être à une baisse un peu plus soutenue de l'inflation. On sait que la cible de la Banque du Canada, c'est autour de 2%. Maintenant, M. Trudeau s'est défendu concernant ses vacances en Jamaïque. Officiellement, il n'y a rien fait d'illégal ou d'illégitime. C'est juste que ce don assez extraordinaire de se mettre dans le trouble avec ses vacances. On parlait hier de l'Aga Khan. Il arrive évidemment toute la saga de l'ingérence chinoise au Canada. Et là, il est avec des amis, puis des amis de la Fondation. Puis il a l'air un peu à pas voir ce qui est problématique dans ça. J'ai payé les billets d'avion. Tu dis, ouais, mais là, ce sont des gens qui, je comprends, sont des amis, mais des donateurs à la Fondation qui portent le nom du bonhomme. Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas l'air à voir l'espèce d'impact sur l'image comme telle? Alors voilà pour M. Trudeau. Il y a une lettre dans la presse ce matin, une lettre ouverte de Joshua Bengio et de Catherine Régis concernant l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, puis on a vu là, puis on projette, je dirais, les dangers d'une intelligence artificielle pas encadrée. Ben, ils réclament justement une intervention des gouvernements pour s'assurer qu'il y ait des lois, des règlements, pour mesurer donc les répercussions, la création de fausses nouvelles, l'impact, par exemple, sur tout le domaine culturel, sur le domaine de l'éducation, la capacité qu'on a de créer des environnements qui sont totalement faux. Alors, à lire ce matin. Puis je termine avec deux nouvelles. Je sais pas si vous avez vu ça depuis hier que je veux vous en parler, mais deux cas qui montrent les dangers de la prolifération des armes à feu aux États-Unis. Vous avez d'abord l'histoire terrible de ce jeune noir qui est supposé aller chercher des membres de sa famille. Il se trompe d'adresse. Il y a un monsieur de 84 ans qui a des armes à feu. Il n'ouvre même pas la porte d'après les premiers témoins, là, d'après la preuve qui a été ramassée jusqu'ici. Il tire à travers une porte vitrée et atteint le jeune homme qui est gravement blessé. Et le jeune homme, semble-t-il, va s'en sortir. L'homme fait face à des accusations, puis il est reconnu pour être un propriétaire d'armes. Puis l'autre cas, ça se passe à Hebron, dans l'État de New York, donc dans le nord de l'État de New York. C'est un gars qui est reconnu pour être une espèce d'ermite qui vit dans son coin, qui aime pas le monde, puis qui chicane dès qu'il a eu l'occasion de le faire. Puis vous avez des groupes de jeunes adultes qui se déplacent en voiture, également avec une moto. Puis ils ont pris un mauvais sentier, un mauvais chemin. Le gars a sorti une arme, puis une jeune fille de 20 ans qui est décédée. Tu sais, des situations comme ça de malentendus qui finissent par une personne tuée et une autre blessée grièvement.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Depuis hier, l'ordonnance de non-publication a été levée, de telle sorte qu'on sait que la victime de l'ex-député Harold Lebel et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, elle est avec nous ce matin. Madame Fournier, bonjour.
Bonjour.
Ça fait beaucoup d'émotions en 36 heures et plus, là, mais moment difficile, les choses s'apaisent un peu pour vous?
Oui, c'est une dernière étape, disons, de mon processus de guérison à travers tout ça, ma reprise de parole. Puis d'abord, d'entrée de jeu, je voulais vous remercier parce que vous avez été le seul à l'époque, lors de l'arrestation de mon agresseur, à souligner à quel point l'ordonnance de non-publication était primordiale dans le parcours d'une victime, que vous aviez déploré à l'époque effectivement que cette ordonnance-là n'ait pas été respectée dans les médias. Donc, je tenais à vous en remercier. Vous avez été également le seul à questionner la présence également de mon agresseur à l'Assemblée nationale. Donc, je tenais à souligner.
C'est gentil, mais on va y revenir plus en détail sur la protection de l'identité. Vous y revenez ce matin dans une lettre ouverte qui est publiée dans Le Devoir, parce que votre nom, puis on le voit aussi dans le documentaire, là, directement par un chroniqueur ou par une espèce de recoupement d'infos, là, que
les deux,
ça permet aux gens de vous identifier. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment possible en 2023 avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a comme, disons, source d'information, qu'on peut 100% protéger l'identité de quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un de connu?
Moi, je le crois. En fait, c'est même un article qui est prévu au cas de criminel que la loi interdit qui que ce soit de diffuser tout renseignement, puis c'est bien le mot « tout », donc tout renseignement qui permettrait d'identifier la victime. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité d'abord et avant tout des corps policiers, du DPCP notamment, de s'assurer que lorsque il y a un cas qui sera médiatisé, puis que ça peut être par une personnalité publique ou quelqu'un dont on va parler dans les médias de façon générale, de s'assurer en amont que l'information soit bien communiquée aux médias, puis ensuite aux médias aussi de prendre leur responsabilité à l'effet qu'on ne peut pas nommer la fonction d'une personne. On ne peut pas nommer son occupation professionnelle. On ne peut pas nommer la date à laquelle un événement est arrivé. On ne peut pas nommer le contexte dans lequel c'est arrivé. Ça contrevient. Ce sont des éléments qui contreviennent directement à l'ordonnance.
Mais ça je le sais, mais je vois sur les réseaux sociaux. Je parle pas des réseaux d'information classiques là, qui font des erreurs, mais sur les réseaux sociaux, je vois des trucs passer où je sais que s'il y a une ordonnance pour protéger, par exemple, des enfants qui ont été victimes, et les noms circulent pareil. Les gens ont entendu dire, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. C'est pour ça, je comprends la volonté, puis c'est important, mais ça m'apparaît difficile.
Vous avez raison, c'est pas évident, mais en même temps, je pense que les institutions peut-être plus officielles doivent donner l'exemple ça, d'abord et avant tout.
L'autre point important, c'est le fait que Harold Lebel, qui a été expulsé du caucus, mais quand même est demeuré député, alors qu'il est accusé au criminel, puisse continuer à siéger. Puis là, je comprends, vous le dites, on est en train de penser à une forme d'aménagement, parce qu'on peut pas être en présence l'un de l'autre, donc il siège, je siège, il y a eu la COVID, mais il y a quelque chose d'anormal dans le fait qu'un quelqu'un qui est accusé au criminel puisse continuer à siéger à l'Assemblée nationale.
Effectivement, moi j'ai posé la question à l'époque. D'ailleurs, le secrétariat de l'Assemblée nationale a quand même démontré une grande sensibilité à mon égard. Là, je tiens à le souligner. Il n'était pas dans une position qui était évidente à l'époque. Ceci dit, ce que je déplore, c'est que ça n'a pas permis d'ouvrir le débat ou la réflexion à l'effet. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un député est accusé au criminel? Est-ce qu'il y a des moyens, effectivement, d'avoir une suspension, comme on le voit dans d'autres corps professionnels? Vous l'avez bien mentionné tout à l'heure avec Jonathan Trudeau. Donc, je pense que la question se pose. À l'époque, il y avait un spécialiste en éthique qui était intervenu dans les médias pour dire que, bon, s'il choisissait de demeurer en poste comme député, il devait absolument se faire discret. Donc, apparaître le moins possible, notamment publiquement, peut-être limiter ses présences effectivement à l'Assemblée nationale. Au final, dès qu'il a eu le droit de retourner en présence au Salon Bleu, puisque moi j'avais été élue mairesse de Longueuil, donc j'avais quitté l'enceinte du Parlement, il est retourné à l'Assemblée nationale sans que quiconque dise quoi que ce soit, sans que quiconque pose quelques questions que ce soit également sur sa présence. Et qui plus est, il continuait d'être très actif comme député à Rimouski, là où devait se passer le procès devant jury par ailleurs. Et donc, il a continué de faire beaucoup d'apparitions avec les groupes. Il était dans les médias tous les jours, dans les médias locaux. Donc, il a été tout sauf discret. Et encore une fois, personne n'est intervenu.
Quand vous avez quitté le Parti québécois, vous avez donné des raisons politiques. Maintenant, avec le recul et en sachant ce que l'on sait, est-ce qu'on peut dire que le fait que vous avez été victime de cette agression commise par un mentor, par un collègue, ça a été l'élément déclencheur en disant « je peux pas continuer à siéger avec lui », même si à ce moment-là, vous n'étiez pas dans les procédures.
Là. Bien, lorsque j'ai quitté le Parti québécois, je l'ai fait pour des raisons politiques. Je l'ai exprimé à ce moment-là. C'était l'aboutissement d'une réflexion personnelle sur le contexte à ce moment-là. Ceci étant dit, moi, c'est certain qu'après avoir tenté, de nier un peu l'agression, de maintenir une relation avec mon agresseur, j'avais de plus en plus de difficultés à le faire. Le fait d'être dans un caucus rapproché, disons, avec lui, puisqu'on était un très petit nombre de députés, je trouvais ça difficile. Donc, disons que c'est certain que ça m'a pas retenu à ce moment-là. Ça m'a même soulagé de quitter le Parti québécois, notamment pour cette raison-là. Mais je dirais même, en fait, que c'est le fait que je sois devenue indépendante par la suite qui m'a donné, disons, la liberté, la possibilité de couper définitivement les ponts et qui m'a donné la force plus tard d'aller porter plainte.
Vous seriez, en fait, vous seriez senti mal ou en tout cas peut-être pas tout à fait à l'aise d'aller porter plainte contre un collègue député alors que vous êtes au caucus?
J'avais peur de nuire aussi à mes collègues, à mes autres collègues.
Est-ce que vous avez dit, je vais en parler au chef à un moment donné?
J'ai réfléchi. Peut-être dans les 24-48 heures après l'agression, je me suis demandé qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais porter plainte à la police? Est-ce que je vais en parler au chef, à la WIP? Je suis certaine qu'il y aurait eu des conséquences pour lui à ce moment-là si j'étais allée en parler à la direction du parti. Puis je l'ai dit hier sur différentes tribunes, je le réitère, j'ai rien à reprocher au Parti québécois puisque j'ai fait le choix délibéré de ne pas aller en parler aux autorités du parti à ce moment-là. Parce que bien que je savais qu'il y aurait des conséquences pour lui publiquement, j'avais peur à ce moment-là qu'il y ait des conséquences aussi professionnelles sur moi. Je venais tout juste d'être élue, ça faisait à peine quelques mois. Je cherchais à faire ma place, à gagner de la crédibilité. Je voulais pas être perçue, en fait, comme la petite nouvelle qui venait faire des vagues, causer du trouble à l'intérieur d'un parti où lui gravitait depuis plusieurs décennies.
Vous avez dit que lorsque vous avez contacté la police, que vous avez rencontré les enquêteurs, vous avez été accueilli par des gens bienveillants qui étaient ouverts et qui vous ont mis à l'aise et qui vous ont permis de déposer la plainte et de raconter ce qui vous est arrivé. Depuis hier, je reçois beaucoup de témoignages de femmes qui n'ont pas vécu la même expérience, qui se sont senties pas nécessairement très appuyées. Est-ce que le fait d'être député ou d'être quelqu'un de connu, ça vous a aidé ou c'est un concours de circonstances, vous pensez?
Je me suis posé la question, bien franchement, est-ce que je suis chanceuse? Est-ce que mon statut joue sur l'accueil dont je bénéficie? Je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué au sein du système judiciaire. J'ai eu l'occasion de développer quand même une relation d'amitié, je veux dire, avec l'enquêteur principal à mon dossier, puis il me dit à quel point maintenant ils étaient formés, notamment à la Sûreté du Québec, pour accueillir les cas de dénonciation d'agression sexuelle. Donc, je suis bien consciente que c'est même aujourd'hui, c'est pas toutes les femmes ou toutes les victimes qui ont la même expérience du système judiciaire, mais j'ose croire que c'est parce qu'il y a eu un chemin important qui a été fait. Maintenant, puis ça, je le souligne dans le documentaire auquel j'ai participé, puis je veux quand même le réitérer, je suis consciente de mon privilège, je suis consciente que je suis quelqu'un qui avait une crédibilité, je suis consciente que je suis quelqu'un qui est capable de bien s'exprimer, et ça fait une différence dans le système judiciaire, puis moi, ça fait partie de mes préoccupations, parce qu'on me dit effectivement, on sait que tu vas bien répondre aux questions, on sait que tu vas être capable de bien raconter ton histoire, t'es habitué de t'exprimer devant un public, puis je peux pas nier que même pour moi, ça a été quand même un processus éprouvant. Aller confier une histoire qui est personnelle, qui est intime, des gestes intrusifs, non seulement devant un juge, mais devant 14 membres du jury, c'est une expérience quand même assez particulière. Là. Dans les cas d'agression sexuelle, puis moi, c'est un autre élément que j'aimerais soulever peut-être dans le débat, est-ce qu'un jury, ça ajoute pas aussi une pression supplémentaire pour les victimes qui doivent témoigner, déjà que c'est un processus qui n'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué de prendre la parole, par exemple. La question se pose, d'autant qu'on forme de plus en plus les juges aussi sur les questions d'agression sexuelle. Évidemment, un jury, on ne peut pas donner des formations en accéléré sur la psychologie des victimes, notamment. Dans mon cas, ça s'est bien passé, parce que je pense aussi que j'ai la capacité de mettre des mots sur mes introspections, sur les réflexes que j'ai pu avoir. J'ai eu une réflexion qui a été importante, un cheminement personnel assez long. Et c'est ça, j'ai la capacité de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et je suis totalement consciente que c'est pas donné à toutes. Donc, je pense que la question mérite réflexion parce que les procès devant jury également se passent à la Cour supérieure. On parle beaucoup de tribunaux spécialisés. À ce moment-là, c'est plus la Cour du Québec, donc avec des juges seuls. Et j'ai entendu des échos du monde judiciaire comme quoi il y aurait une augmentation des procès devant jury. Donc, est-ce que c'est fondé? Si oui, est-ce que l'hypothèse est à l'effet que, puisque maintenant on a augmenté la formation des juges, est-ce qu'on essaie de se tourner un peu plus vers les procès devant jury? Bref, je pense que ça vaut la peine de creuser cette question-là.
Vous avez dit que c'est une expérience évidemment difficile de raconter autant de détails, c'est sa vie intime, personnelle et tout ça. Mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils entendent, que ce soit durant un procès ou autrement, on va dire, ben moi, dans un contexte, j'aurais réagi comme ça. Puis moi, je reçois des courriels puis j'entends le commentaire. Catherine Fournier, c'est une jeune femme forte, intelligente, brillante. Quand elle a subi ces gestes-là, pourquoi elle l'a pas tassé? Pourquoi elle n'est pas sortie? Pourquoi elle s'est pas sauvée? Pourquoi elle n'a pas réagi plus fortement?
Je suis contente que vous me posiez la question parce que je me suis moi-même posé cette question-là à la suite de mon agression. Puis je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui se posent la même question, qui ont un peu honte, en fait, de ne pas avoir agi de la façon dont elles auraient pensé qu'elles auraient réagi. Parce que moi, vous m'auriez mis dans cette situation-là, il va t'arriver telle chose. C'est évident que j'aurais répondu, ben voyons donc, je me serais levée, je me serais sauvée, j'aurais crié. Mais la réalité à laquelle j'étais confrontée, c'est que c'est pas comme ça que j'ai réagi dans un contexte de peur, dans un contexte également où c'est pas, la plupart des agressions non plus se passent pas comme ça, c'est pas dans une ruelle par un inconnu, ça se passe avec quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui change drastiquement de comportement par rapport à ce qu'on connaît de lui. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé. En fait, j'ai vraiment réagi par mode de protection. Puis par la suite, au fil de mes recherches, de mes lectures, je sais maintenant que la plupart des victimes réagissent ainsi. En fait, j'ai eu peur que si je faisais quelque chose, que la situation dégénère encore plus, d'autant que plus tôt dans la soirée, il avait démontré beaucoup d'agressivité. Donc, c'est pas facile. Moi, je me souviens que j'ai mille et une questions qui me sont passées par la tête à ce moment-là.
Vous aviez devant vous un gars déprimé et agressif à la fois, là, si j'ai bien compris.
Ben, surtout, un homme totalement différent de ce que j'avais connu dans les 2 ans auparavant où je l'avais côtoyé, et même plus où ça avait été un ami proche.
Avez-vous l'impression que maintenant que c'est public, que ça change la dynamique avec vos citoyens et citoyennes de Longueuil qui vont vous regarder autrement, qui vont avoir une autre opinion sur vous, de vous?
Je dois vous dire qu'au départ également, une des raisons pour laquelle je souhaitais l'ordonnance de non-publication, pour laquelle j'ai hésité à porter plainte, c'est que j'avais peur de l'étiquette, que ce soit ça qu'on retienne.
La victime.
Exact, exact. Puis j'ose croire aujourd'hui, j'ai cheminé là-dessus, j'ose croire que c'est pas ça qui va être retenu, que, en fait, si on retient quelque chose, que je suis la personne qui a choisi de dénoncer son agresseur, puis tu sais, j'ai un message à apporter à travers tout ça. Mais j'espère que au-delà de tout ça, ça continuera d'être davantage là, mes prises de parole professionnelles qui continueront de retenir l'attention. Mais je suis consciente que j'ai une voix. En tant qu'élu, je souhaitais me servir de cette tribune-là tant qu'à avoir vécu une agression sexuelle, tant qu'à avoir vécu justement cette atteinte à ma vie privée lorsqu'il y a eu le bris de l'ordonnance de non-publication. J'ai souhaité transformer ces événements-là en quelque chose de positif, faire œuvre utile. Dans les prochains mois, je vais collaborer également avec le réseau des CAVAC pour continuer à tenter de vulgariser le processus judiciaire. Donc, moi, c'est ma façon de cheminer personnellement dans tout ça. Puis, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, parce que ça va vite, je pense qu'il y a une belle vague de solidarité, que ce soit à Longueuil ou ailleurs. Puis, je veux remercier les gens. Ça me touche beaucoup.
Merci beaucoup d'être venue ce matin.
Merci.
Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Ben, on va poursuivre la discussion qu'on vient d'amorcer avec Catherine Fournier. Évidemment, tout le monde salue son courage d'être capable de foncer dans la mêlée pour d'abord revendiquer ses droits, puis l'assumer après publiquement. Elle l'a dit, elle l'a répété tantôt, elle ne blâme pas le Parti québécois, mais soulève des questions quand même sur la présence à l'Assemblée nationale d'un député qui fait l'objet d'accusations, pas d'allégations, mais d'accusations criminelles. J'en parle d'abord avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est quand même particulier de voir qu'un député qui a été expulsé là, du caucus, on en convient, mais puisse continuer à siéger donc et voter sur des lois alors qu'on l'accuse au criminel dans une affaire sexuelle.
Oui, donc dans les heures qui ont suivi son arrestation, je l'ai suspendu du caucus du Parti québécois. Mais dans n'importe quel milieu de travail, ça signifierait que l'accusé ne sera pas en contact d'aucune manière avec le milieu de travail, avec la victime alléguée. Alors que là, on est dans un système où le fait d'être élu, ça, on ne peut pas l'enlever. Nos lois sont faites de sorte que le statut d'élu ne change pas, peu importe qu'il y ait une accusation ou pas. Et donc, l'élu est en mesure de continuer ses fonctions, ce qui est complètement anormal par rapport à d'autres milieux de travail, mais ça s'explique par le statut d'élu tel qu'il est inscrit dans notre Constitution, dans nos lois. Et donc, ça soulève la question, quel protocole ou comment est-ce qu'on doit gérer mieux? Et je le précise, là, c'est vraiment l'Assemblée nationale comme institution qui gère ces questions-là. Et l'Assemblée nationale, elle est liée par des lois, par le cadre juridique actuel.
Mais je comprends.
Comment
on peut
ajouter un protocole? Comment est-ce qu'on peut ajouter une modification pour que certains des aspects qui sont soulevés par Catherine Fournier à l'avenir soient gérés différemment?
Je comprends ce que vous me dites, là, mais je demande au chef du Parti québécois ce matin, est-ce qu'il est d'accord qu'un député qui est accusé au criminel puisse continuer de siéger?
Le statut d'élu, il est difficile à retirer à quelqu'un. Si on retire le statut d'élu à chaque fois qu'il y a une accusation, il y a des dysfonctionnements démocratiques. Moi, je suis plus dans la pensée de mettre en place des protocoles stricts.
Mais comment?
Vraisemblablement, n'était pas là dans le comportement qu'on s'attend de quelqu'un qui est accusé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut destituer un élu sur le champ alors qu'il n'y a pas eu de procès et qu'il y a toujours en principe une présomption d'innocence? Il y a des juristes qui peuvent se pencher là-dessus, mais il faut faire attention avant de...
Mais on dit pas de le destituer. Moi, j'ai des policiers qui ont déjà été suspendus parce qu'ils faisaient l'objet d'accusations criminelles. Ils ont leur salaire, ils gardent les avantages, mais ils travaillent pas, puis ils peuvent pas ils attendent. Député peut pas avoir le même statut.
Ouais, oui. Moi, je disais par protocole, c'est ça que j'entendais. Et là, faut voir dans quel nouveau cadre juridique l'Assemblée nationale a besoin de travailler pour pouvoir faire ça. On laissera là, l'institution s'exprimer sur comment et pourquoi ça a été géré de cette manière-là.
Mais je vous donne...
Il y a un problème parce qu'en effet, le fait de suspendre au Parti québécois comme je l'ai fait, dans n'importe quel autre milieu de travail, ça clôt la question. Ouais. Mais là, il y a un deuxième niveau qui est celui de l'institution puis du statut d'élu.
L'autre question, je me souviens du cas de Jerry Slavounos qui faisait l'objet d'allégations et non pas d'accusations. Tous les partis politiques demandaient sa démission. Tout le monde déchirait sa chemise. Puis là, je suis pas là pour le défendre, mais vous, comme chef de parti, je comprends que vous l'avez tassé du caucus, mais est-ce que vous pensez qu'Harold Lebel aurait dû démissionner?
Il aurait pu faire ça, mais rappelez-vous, à l'époque, il clamait son innocence. Et moi, je me souviens très bien de la position dans laquelle je me trouvais, c'est-à-dire devant des sources non fiables du oui-dire au sein du parti, des gens qui exerçaient des pressions d'un côté comme de l'autre. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur l'importance de faire confiance aux institutions puis le courage de Catherine Fournier.
Mais qu'est-ce que vous entendiez à gauche et à droite?
Bien, c'est que lorsque des accusations sont portées, ça génère énormément d'accusations. Il y a des gens qui croient l'accusé, puis il y a des gens qui croient la victime. Et il y a toutes sortes de gens qui ont des opinions. Et ça peut pas être géré comme ça. C'est pour ça que la justice ne peut pas être rendue sur Twitter. Le courage de Catherine Fournier, moi je le souligne, c'est d'avoir porté plainte formellement devant les tribunaux et d'avoir passé à travers ce processus-là pour que une justice soit rendue.
Ouais, mais ce que je trouve là, je vous écoute, puis en tout respect là, c'est comme si ça dépend de quelle couleur on est. Quand c'est un député d'un parti adverse comme Slavounos, ben on demande sa tête puis tout ça, mais quand c'est un de la gang, ben là on est un peu plus prudent.
Non, honnêtement, il n'y a vraiment aucune considération partisane. Il y a simplement le fait que le seul endroit où on peut déterminer ce qui est arrivé ou pas, puis c'est important aussi que je mentionne, c'est des événements qui sont non seulement antérieurs à mon élection comme chef, mais qui ont lieu à l'extérieur du milieu de travail pour lesquels il n'y a aucun témoin, personne n'est capable d'amener de l'information crédible sur ce qui a pu ou non se passer. Le seul endroit qui peut rendre justice et trancher, c'est un tribunal. Et ça n'a rien à voir avec la partisanerie, ça a à voir avec le fait qu'on n'a aucune idée, aucune bribe de faits fiables sur lesquels s'orienter. Mais ça n'empêche pas la question que vous soulevez, à savoir comment dorénavant, lorsqu'il y a suspension au sein du parti, qui est un geste non équivoque de la part du Parti québécois, comment à l'Assemblée nationale comme institution, on change ou on fait évoluer les règles pour qu'il y ait un encadrement beaucoup plus strict de ce statut d'élu-là.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, merci. Il est Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je me tourne maintenant vers Catherine Dorion pour deux raisons ce matin. Je veux aussi poursuivre la discussion sur ce sujet puis également parler de la nouvelle qui est tombée hier sur la métamorphose du troisième lien à Québec. Catherine Dorion, bonjour.
Allô, ça va bien?
Bien. La première question que j'ai envie de vous poser, vous avez siégé comme député pour Québec solidaire, vous avez critiqué l'institution. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un député qui est accusé, là, je précise encore, d'agression sexuelle puisse continuer à siéger?
Oh, je n'ai pas réfléchi à cette question-là avant de vous appeler. Là, honnêtement, moi, je vais vous parler du troisième lien. Je peux juste dire qu'en vous écoutant questionner Paul Saint-Pierre Plamondon, je me suis dit, oh mon Dieu, je m'en dis pas d'être dans le siège du député représentant. On est bien quand on n'est pas questionné comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire, on est bien?
Ben là, je représente plus un parti politique, tu sais, je parle en mon nom, puis là, ben j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'a pas le choix, tu sais, il essaye de préserver tout ce qu'il peut préserver, il est toujours dans des calculs, c'est comme ça, les politiciens, quand on est questionné par les
les journalistes, les animateurs, on a plein de choses en tête. Il faut pas aller là, faut pas aller là. C'est comme si ton cerveau devient une espèce de zone hyper balisée parce que tu peux tomber, il y a des trous partout, tu peux te faire tirer d'un bord, tirer de l'autre. Après ça, il y a telle partie du monde qui seront pas contents, puis telle autre partie qui vont être contents, mais là, tu vas perdre des appuis, puis en tout cas, bref, je m'ennuie pas de ça.
OK, mais c'est quand même une maudite question, puis une députée qui se fait agresser, puis qui a une accusation, puis qui peut-être va croiser son agresseur au Salon Bleu, puis que lui continue, avouez que c'est quand même particulier, là.
Ah ouais, c'est sûr. Mais moi, je suis pas l'actualité médiatique du tout, du tout. Là, moi, je suis depuis novembre, là, j'ai décroché complètement. Ça m'a fait le plus grand bien. Puis, ben, quand votre attaché m'a...
Oui. Ben, j'arrive au troisième lien.
J'ai dit non à tout le monde ces temps-ci. Même, j'ai peur de faire des fâchés dans les médias parce que je dis systématiquement non. Plus, j'étais tellement heureuse hier de la nouvelle sur le troisième lien. J'ai texté, j'ai dit, ah, d'habitude, je dis non, mais là, c'est trop de bonne humeur.
Fait, OK. Vous êtes heureuse et de bonne humeur parce que le troisième lien, le tube, sera pour le transport collectif seulement. Il n'y aura pas d'auto.
Exact, oui. Ben, c'est ce qu'ils disent. Ça se peut très bien qu'ils laissent tomber aussi le tunnel parce qu'on sait que les coûts sont astronomiques, que d'un point de vue biologique, c'est compliqué aussi. Là.
Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Pourquoi, là, alors qu'il y a quelques mois à peine, c'est une promesse phare de la Coalition Avenir Québec, pourquoi on arrive au mois d'avril puis là, ça ne marche plus là pour eux?
Ben, je pense que ça fait longtemps qu'ils se demandent comment ils vont faire pour laisser tomber ça. Tu sais, l'opposition était féroce, y compris dans la ville de Québec. Hein, j'entends beaucoup ce matin dire dans le reste du Québec, c'est pas populaire, mais à Québec, il va perdre des plumes. La CAQ va perdre des plumes. Bon, c'est possible, mais en même temps, l'opposition était féroce. Là. Autant les citoyens sur le terrain, les groupes, la mobilisation était extraordinaire. C'était fameux pour de vrai. Puis il y avait aussi le travail des journalistes qui disaient, ben moi, si je mets les faits de l'avant, voici les faits. Puis les faits, toutes les études d'urbanisme, tous les besoins de base de déplacement allaient dans le sens de ça va être une énorme dépense d'argent inutile que de faire ça, en plus de mal développer la ville, autant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue d'urbanisme. Fait que là, il n'y avait rien pour eux, la CAQ, pour défendre ce projet-là, sauf le fait que politiquement, il y avait du monde qui le voulait, puis aussi qu'il y avait au moins deux, sinon trois radios, là, selon l'époque, qui poussaient pour que ça se fasse. Donc, il y avait du monde qui le voulait, tu sais. Mais là, quand on mettait de l'avant tous les arguments, il n'y avait pas grand-chose qui tenait. Fait que nous, on le voyait bien, là, qu'il était mal à l'aise. Moi, pendant les quatre années où j'étais députée, c'était mon gros dossier, puis j'étais, mon Dieu, j'y plaignais sincèrement. Je plaignais le ministre qui avait à défendre ça. J'étais comme, comment ils vont faire pour se sortir de ça?
Pensez-vous que le fait qu'il y a eu la pandémie, donc l'arrivée du télétravail, moins d'achalandage aux heures de pointe et tout ça, ça a été comme la porte de sortie en disant, OK, on saute là-dessus, puis on tasse le projet?
Moi, ça c'est une bonne hypothèse qui se tient. Mais qu'il essayait de... Mais en même temps, certains saluent le courage de Guilbeault. Tu sais, il faut dire que c'est pas facile ce pas-là à faire pour eux, puis qu'ils l'ont fait, tu sais. Mais en même temps, est-ce que on peut les féliciter maintenant, mais on peut aussi leur dire pourquoi vous faites des promesses électorales aussi pas tenables, tu sais. Je veux dire, essayez donc de faire de la politique en restant plus connecté sur la réalité plutôt que d'inventer des gros rêves pas possibles pour avoir des votes, là, tu sais, à un moment donné.
Catherine Dorion, merci beaucoup. Bonne journée.
Salut.
Au revoir, Catherine Dorion, qui a été députée de Québec solidaire.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant avec nous, le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je comprends que l'annonce sera officielle là, demain, mais je pense que vous avez eu l'occasion de parler avec la ministre Geneviève Guilbeault. Comment vous réagissez à l'abandon du projet original qui deviendra un projet de transport collectif seulement?
Ben, je pense que ça prend beaucoup de courage de la part du gouvernement, de la part du premier ministre, de la part de la ministre Geneviève Guilbeault, pour se dire, puis moi je suis convaincu là qu'ils avaient vraiment l'intention de le faire, et que les données leur ont amené des éclairages supplémentaires qui leur ont dit, on peut pas aller là pour l'instant, et en même temps, on garde le volet transport collectif, parce qu'il est important pour relier un centre-ville à centre-ville. Moi je pense que c'est pas facile de faire ça en politique. C'est dur de faire ça quand on l'a promis, puis de réaliser que les données, la science ne va pas là. Moi, je salue leur courage et leur vision, dont celui de Mme Guilbeault.
Faites-moi la lecture, parce que moi, je suis à Montréal, là, mais ce que j'entends, c'est de dire Lévis va être en maudit, Québec, de façon générale, va être satisfaite, puis que ça va créer certaines tensions entre les deux villes.
Ben, je sais pas. Évidemment, M. Lehoulier était favorable, on le laissera réagir, mais en même temps, il y a quelque chose de très bon pour Québec et Lévis. D'être capable de relier centre-ville à centre-ville par un tunnel, qu'on va attendre la présentation de Mme Guilbeault, là, mais qui va permettre en quelques minutes de passer d'un centre-ville à l'autre, c'est économiquement extraordinaire pour la région, c'est très bon pour Lévis, c'est très bon pour Québec, c'est très bon pour densifier nos centres-villes, ça donne accès à un tout autre espace qui prenait un temps fou par le pont, qui imposait des détours ou par le traversier, mais on connaît les limitations. Pour moi, économiquement, là, je parle pas du coût de construction, mais je parle des possibilités économiques que ça ouvre, des possibilités de déplacer des travailleurs, des possibilités d'ouvrir sur des activités culturelles et sportives, de relier des centres d'intérêt. C'est une extraordinaire nouvelle, et ça, je pense que M. Lehoulier le saluera. Est-ce que l'autre partie qui manque pour lui est grave, ce sera sa réaction? Mais je pense qu'il y a de très bons gains pour la région dans cette nouvelle-là.
Parlez-moi un peu du tramway. On voit dans la région de Montréal l'explosion des coûts pour les travaux de réfection du pont de l'île aux Tourtes, là, une augmentation de 65%. Ouais. Pour reprendre l'expression de Tony Accurso, là, êtes-vous on time, on budget ou ben ça défonce là aussi?
Ben, on a eu les premières, le premier grand segment du projet. On avait eu d'autres évaluations avant, d'autres appels d'offres avant, mais là, c'était pour le matériel roulant. Donc, Alstom a été choisi. On est à 43% au-dessus de l'estimation initiale. Donc, on est 170 millions au-dessus de ce qu'on avait estimé avant l'ensemble des tenants et aboutissants économiques qui nous gouvernent présentement et qui impactent l'ensemble des projets. Vous avez parlé de l'eau tourte, on pourrait parler des hôpitaux, de la ligne bleue, de d'autres ouais. projets à Québec. Alors, on est en hausse. On est dans le bas de cette fourchette que les experts estiment entre 40 et 60% actuellement ou autour d'eux. Et c'est un projet qui, je pense, est intéressant quand même. On aurait souhaité l'avoir à un coût différent, mais dans le contexte, c'est impossible. On a eu le meilleur prix, le juste prix du contexte.
OK. Vous êtes en train d'implanter les infrastructures de transport collectif. Enfin, vous ajoutez aux infrastructures. Il y a évidemment un échéancier à respecter. Comment vous allez convaincre les gens de Québec d'utiliser ce que vous êtes en train de leur construire?
Ouais, c'est une bonne question. Puis c'est une bonne question parce que les gens ont la perception des fois par l'extérieur que les gens de Québec sont fermés au transport collectif. Puis c'est pas le cas. Je vais vous donner deux exemples qui sont différents, qui sont pas aussi gros que ceux dont on parle, mais qui donnent quand même l'appétit pour les gens de Québec. On a mis dans la couronne nord un flexibus qui permet dans des zones limitées de se déplacer avec un transport à la demande. Donc, petit autobus qui permet à la demande de se déplacer et de gagner en mobilité. C'est de la mobilité collective, 7 à 8 passagers, qui permet plus de facilité et d'agilité. Et c'est surutilisé présentement. Il y a une demande plus grande que ce qu'on est capable de fournir parce qu'il y a de l'appétit, parce que quand on offre des services intéressants, les gens répondent. Quand on a mis à vélo l'année passée, on avait 400 à vélo l'an passé. On a fait 185 000 déplacements sur une période de 6 mois. Et les gens nous disent, mettez-en encore plus, on en veut encore plus. Alors, c'est pas vrai le mythe que Québec est pas ouvert au transport collectif. Mais les gens de Québec, ce qu'ils souhaitent, c'est des choses faciles, c'est des choses efficaces, c'est des choses agiles. Et c'est ça qu'on va leur proposer dans tout le territoire, pas juste dans le centre-ville, dans l'ensemble de la ville.
Il y a eu une approche qui s'ajoute, que vous connaissez, qui est celle de Luc Ferrandez, par exemple, à Montréal, qui était de dire, quand il était maire du Plateau, ben, il faut mettre des entraves à la circulation, il faut aménager le territoire pour décourager l'utilisation de l'auto. Ça va, par exemple, de certaines taxes, ça va de parcomètres plus élevés, la liste est longue. Là, vous dites, on invite les gens à le faire, on rend ça attrayant. Est-ce que vous regardez aussi des outils plus coercitifs?
Ben oui et non. Dans le sens que, pour moi, là, ce qui est important dans ce changement qu'on fait, c'est la mobilisation, c'est que les gens, le moteur de changement, ils viennent d'eux, ils viennent pas d'un maire, ils viennent pas de quelqu'un qui leur dise, moi, je vais te dire comment te déplacer. Parce que je trouve que ça, c'est une mobilisation qui est extrinsèque, qui vient de l'extérieur et qui dure pas longtemps. Je pense que quand une ville fournit des moyens à des gens, quand les gens voient le contexte dans lequel nous sommes, quand ils voient qu'ils peuvent sauver 10 000 $ s'ils mettent une voiture de côté, au lieu d'en avoir deux, ils en ont juste une, ça permet de sauver 10 000 $ en économie familiale pour d'autres projets familiaux, d'autres projets de couple, d'autres projets individuels. Quand ils voient les gains, quand ils voient les gains écologiques, quand ils voient les gains de confort, de fréquence, il y a là vraiment des gens qui font le changement. Est-ce que tout le monde va le faire? Non. Mais c'est sûr que puis les gens disent, est-ce qu'il faut faire la guerre à l'auto? Pour moi, il faut pas faire la guerre à l'auto. Mais il faut faire le partage de l'espace de façon différente. Et c'est pour ça qu'on a annoncé que sur Chemin Saint-Foy, on allait enlever une voie autoroutière de chaque côté pour créer une piste cyclable. Pas pour faire la guerre à l'auto. Parce que présentement,
on va être capable de passer plus de gens dans ce secteur-là si on inclut une piste cyclable que si on fait juste faire passer des voitures. Alors, dorénavant, l'objectif, c'est plus de combien de voitures on fait passer dans un espace, c'est combien de gens on fait passer dans un espace. Et des gens, c'est des gens en voiture, mais c'est des gens aussi en autobus, c'est des gens qui utilisent la mobilité active, c'est des gens qui utilisent un paquet de moyens de se déplacer. C'est ça, la Ville de Québec.
Monsieur Marchand, merci. Bonne journée à vous.
Hey, merci beaucoup.
Au revoir. Bruno Marchand est le maire de Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Et je me suis dit, pour parler un peu à la fois des enjeux, des impacts et des stratégies de cette grève des fonctionnaires fédéraux, qui d'autre que Françoise Boisvert, que vous connaissez bien, qui est au mordu de politique, elle est analyste à la CBC, qui a été députée fédérale pour le Parti libéral, pour le NPD. Françoise, bonjour.
Hey, salut Paul, quel plaisir de te jaser.
François, je veux t'entendre d'abord comme, disons, si je te dis, replace-toi comme député. Là, quand il y a une grève comme ça des employés de l'État, comment le gouvernement peut réagir? Comment l'opposition du NPD va réagir? J'ai vu le chef, là, Jack Meeting, qui a dit on est du bord des syndicats, puis qu'en fait des employés, puis qu'on donne les augmentations. Politiquement, là, comment les cartes vont jouer selon toi?
Ben là, il y a plusieurs personnes qui sont en train de trembler pour différentes raisons. D'une part, comme député, je vais juste m'asseoir quand j'étais député, là, quand il y avait des grèves ou des manifestations, peu importe, souvent ils viennent s'installer devant ta porte. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Ici, dans ma région, là, il y a 11 endroits stratégiques que l'Alliance a déterminé pour que son monde puisse aller participer. C'est ce qu'on entendait derrière Philippe, là, et ce qui répondait à une de mes questions bien importantes, de voir quel genre de mobilisation l'Alliance était pour avoir. Ben, c'est intéressant de voir qu'à 8h10 ce matin, il y a ce genre de participation assez dynamique. Alors là, ça va se faire même. Moi, le député qui m'a battu en 2015, ben, il va avoir du monde devant sa porte. Ben, je serai pas là, inquiétez-vous pas, mais il y aura du monde devant sa porte, des syndiqués qui vont aller là. Alors ça fait un député qui va retourner en caucus un moment donné, un mercredi matin, pour dire au boss, hey, ils sont fatigants, mes employés sont fatigués de les voir là, les autres personnes dans l'édifice, la même chose. Et là, en plus, oublie jamais une chose, on est en situation de gouvernement minoritaire. Alors, toutes ces pressions-là, partout, on va voir comment le bon peuple va réagir aussi, quel genre d'appui ils vont donner. Moi, j'ai l'impression que les deux bars vont y perdre un petit peu en termes d'image, là. Ça va être la faute du gouvernement, puis les maudits fonctionnaires paresseux, là, on va tout entendre ces phrases-là. Mais en termes d'image, le risque est beaucoup plus grand du côté gouvernemental que du côté des fonctionnaires. Entre toi et moi, là, les gens peuvent mettre un visage au gouvernement. Il y a Justin Trudeau, il y a Jack Meeting, il y a Poilievre, il y a des faces. Des fonctionnaires, c'est un qualificatif. On ne sait pas exactement. Alors, ils sont habitués de se faire traiter de ci et de ça. Moi, j'aimerais bien que les gens se rappellent le matin là qu'on parle pas des exécutifs, on parle pas des cadres, on parle des employés de la fonction publique. Les gens qui font 35 000 puis mettons 100 000 là, par, grosso modo par année. Fait que enlevez-vous de la tête que c'est tous les gros riches là qui font les gros salaires puis qui travaillent pas fort. Fait que ça fait partie de l'image aussi. C'est le monde que les partis politiques veulent rejoindre. Tu sais, la classe moyenne. Là, et ils sont en plein dedans. Alors, la pression va être énorme.
OK. Est-ce que le gouvernement, de façon générale, selon ton expérience, va être patient ou si on va, si la négo avance pas rapidement puis il n'y a pas d'entente, la loi spéciale ne sera pas très loin, là?
Ben, le problème de la loi spéciale, c'est, moi, je me souviens quand je suis entrée à la Chambre des communes en 2011 avec Jack Layton. Notre premier grosse bataille, si tu veux, ça va avoir été de contester puis de faire l'espèce de filibuster sur la loi forçant le retour au travail à Post-Canada des conservateurs. Et je me rappelle de ce que les libéraux aussi disaient dans ce temps-là, même s'ils étaient à la deuxième opposition derrière nous autres, là, au NPD. C'était indécent, ça avait pas d'allure, c'est des droits de la personne, puis en veux-tu en veux-là. Comme quoi, quand tu prends le pouvoir, ben c'est drôle comme si tu n'as plus la même logique. Mais ici, pire encore, ils ont moins les coups des franges que Stephen Harper avait, par exemple, en 2011 avec son gouvernement majoritaire. Là, ils vont avoir, ils sont devant un gouvernement minoritaire. Leur partenaire de tango, c'est le NPD, qui est anti-loi forçant le retour au travail. Ceux qui pensent, puis qui font aller sur les réseaux sociaux présentement, le fait que Jack Metzing pourrait appuyer ça, enlevez-vous ça de la tête, ça serait la mort du nouveau Parti démocratique. Ça serait épouvantable, Jack Metzing, ce serait le siège éjectable le plus rapide que tu aurais jamais vu de ta vie. Ils appuieront jamais les libéraux là-dessus. Ça pourrait même faire en sorte que le NPD va se retrouver dans une position que d'appuyer un gouvernement, non pas sur la loi, mais sur le reste, là. Ça serait même perçu comme étant indécent pour la simple et bonne raison que le gouvernement libéral aurait forcé des travailleurs syndiqués qui font qui exercent un droit légitime qui s'appelle la grève. Ça va être difficile à faire avaler. Alors imagine ça, toi. Hey, moi, ça m'excite au bout, là, mais de voir les libéraux avec les conservateurs voter ensemble une loi pour forcer le retour au travail des grévistes. Il y en a qui vont avoir de la misère après ça. Les conservateurs, dis-toi une chose, présentement, Pierre Poilievre joue beaucoup dans les tales néo-démocrates du NPD sur la base du concept travailleur, du concept syndicat. Ils disent, nous autres, on est là pour votre poche. On est là pour vous aider. Les gens, la classe moyenne qui ont besoin, qui souffrent présentement avec l'inflation, on est là pour vous autres. Et là, ça ferait toute ça serait une claque en plein visage à ceux qui courtisent en ce moment. Alors, il y a bien du monde. Les seuls qui sont pas trop embêtés, là, c'est le Bloc, parce qu'ils ont jamais trop de ils n'ont pas de grosses décisions à prendre. T'sais, eux autres, là, c'est comme une petite conscience quelque part, là, qui travaille, font un bon travail, mais ils n'ont pas de comment je pourrais dire, ils n'auront pas de conséquences d'un bord ou de l'autre. Alors, ça va brasser dans les caucus, je peux te dire, ça, mon ami, ça sera pas évident. Alors, est-ce que le gouvernement peut être patient? Tu vois que j'ai pas changé. Je suis toujours aussi longue dans mes réponses. La réponse est, il pourra pas être trop patient avec ses propres positions. Ils sont pas si loin que ça entre vous autres, les amis, là. Le télétravail, arrêtez-moi ça. Moi, je regarde les gens. Il y en a qui pensent que les gens sont chez eux puis qu'ils travaillent pas. Voyons donc. Hey, j'ai des amis. J'ai une voisine de condo. Cette fille-là, je la vois travailler de 7h le matin à 19, 20, 21h. Elle est tout le temps sur son maudit ordinateur. Puis je me dis, ben voyons donc que c'est ça. C'est de même. Parce que t'es à la maison, c'est facile, t'es là. Le boss, ben il contacte à jour et nuit. Puis, tu sais, c'est that's it, that's all. Tu travailles fort. Par contre, de l'encadrer. Je pense pas que le syndicat, toi puis moi, là, veut avoir le droit de déterminer où ce que les employés vont travailler. Ça fait partie.
Non, mais il veut mettre un cadre en disant voici quelles sont les règles,
ben oui.
les normes,
ben oui,
pour le télétravail. Françoise, merci d'avoir été avec nous.
Ay, pas de trouble, ça me fait plaisir.
Au revoir. Françoise Boisvert, qui, je le rappelle, est analyste, entre autres, à l'émission Les Mordus de Politique.
L'essentiel de Paul Arcand.
On parle beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle, d'inquiétude. On reconnaît évidemment l'utilité, mais en même temps, les dangers. On a vu des exemples de fausses nouvelles, de faux événements artistiques qui sont créés. Et il y a une lettre ouverte ce matin de plusieurs spécialistes de la question qui disent il est temps que les gouvernements s'engagent pour adopter une loi afin d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle, de même que son utilisation. Valérie Pisano, qui est la présidente et chef de la direction du MILA, est avec nous. Madame Pisano, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, pourquoi est-il urgent, selon vous, d'encadrer là, le développement de l'intelligence artificielle?
D'abord, il faut dire que le professeur Benjo et MILA disent depuis des années là, que le développement de l'IA va devoir s'inscrire dans un cadre réglementaire, dans un cadre législatif. Ce qui est arrivé depuis le mois de janvier, c'est que l'intelligence artificielle a comme atteint un nouveau sommet. On parle beaucoup de ChatGPT, c'est l'exemple là, le plus accessible peut-être, mais il y a eu une accélération significative du développement et du déploiement de ces technologies-là, qui sont par ailleurs très accessibles à tous. Hein. N'importe qui avec un portable là, peut aller voir ChatGPT et l'utiliser. Donc, dans ce contexte-là, il y a un écart qui se creuse entre la vitesse à laquelle on est en train d'établir ces lois et ce cadre et la vitesse à laquelle les technologies sont déployées.
Mais prenons deux ou trois exemples. Moi, j'ai vu récemment des photos qui circulent, supposément d'événements, mais qui, dans le fond, ont été créés de toutes pièces. Donc, ce ne sont pas des événements, ce sont des fausses nouvelles qui circulent. J'ai vu, ça a été largement diffusé, un duo musical entre Drake et Weeknd qui n'a jamais été fait et qui a été visionné par des millions de personnes. Quels sont les secteurs les plus à risque d'une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, selon vous?
Oui, écoutez, il y a des secteurs, c'est sûr qu'on parle beaucoup du secteur créatif en ce moment, là, notamment dans les exemples que vous avez donnés, mais de façon plus générale, ces systèmes-là vont s'inscrire dans toutes sortes d'applications qu'on utilise au quotidien. Puis le projet de loi C-27 vraiment met l'emphase sur les risques pour les humains, pour les individus. Voir une photo, si on me dit « garde, c'est une photo que j'ai inventée de toute pièce, c'est rigolo », ben OK. Mais si on utilise cette image-là pour provoquer, par exemple, une réaction ou un dialogue politique, ça peut littéralement mettre à risque nos institutions démocratiques. Là, c'est de la mauvaise information, de la fausse information qui peut être utilisée pour faire du tort, là, essentiellement, à la collectivité. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça prend un cadre réglementaire. Aujourd'hui, on s'en remet essentiellement aux compagnies privées, surtout américaines, qui la développent. Et il n'y a pas de balises qui les encadrent ou qui les supervisent.
Quand vous me parlez de balises, là, vous pensez à quoi concrètement?
Au tout départ, ça prend des lois fédérales. Ça prend un cadre national. C'est vraiment le point de départ. C'est sûr que l'intelligence artificielle, ça ne connaît pas de frontières. Il devra y avoir des traités, puis des principes communs au niveau international. Puis d'ailleurs, je pense que le Canada est dans une posture exceptionnelle pour aller s'asseoir à la table des grands pays du monde. Toujours faut-il qu'on ait déjà quelque chose à mettre de l'avant, qui est notre propre réflexion sur le cadre réglementaire. Ensuite, il va y avoir toutes sortes d'autres niveaux. Hein. L'IA déjà sous certaines des lois qui existent, par exemple la loi de la protection du consommateur, là, contrevient probablement à certaines des valeurs qu'on s'est données collectivement. Puis ça va prendre des règlements et éventuellement dans chacune des entreprises qui développent ces technologies-là, des standards ou des cadres de gouvernance pour le développer de la bonne façon dès le départ, là, mettre sur le marché des choses qui s'inscrivent dans la même grande idéologie à laquelle on va tous adhérer.
Mais ça veut dire, là, et les exemples sont nombreux, on peut pas demander à ce secteur économique, à cette industrie, de s'autodiscipliner. C'est une perte de temps, là. C'est à l'État d'intervenir.
C'est exactement ça notre message.
Dites-moi, vous parliez tantôt de l'accélération de la puissance, si on veut, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui s'en vient, selon vous, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans?
C'est presque impossible à prédire, pour être parfaitement honnête. Puis les derniers mois nous ont montré que ça se passe beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait pu anticiper. Puis encore une fois, il y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a une poignée de joueurs qui aujourd'hui ont accès à des infrastructures de calcul et à des données qui leur permettent de créer ce qu'on appelle des méga-modèles, des super-modèles. Il y a toutes sortes d'articles qui ont été écrits là-dessus. Et ces modèles-là, une fois qu'ils sont développés, une fois qu'ils existent, une fois qu'ils apprennent et qu'ils se développent, hein, parce que c'est ça, c'est intelligent, c'est pas fixe dans le temps, ça continue d'émerger comme technologie. C'est pas facile de prédire ce qui va arriver, puis ça fait partie de ce qui a alimenté les préoccupations du professeur Bengio et sa décision de co-signer l'autre lettre, celle qui a paru il y a quelques semaines, où on demande à toute fin pratique un moratoire. C'est une façon de dire, on peut pas continuer de développer un modèle sans avoir la réponse à la question que vous posez, mais ça s'en va où? C'est pas responsable, on doit s'arrêter, faire une pause, puis voir où on en est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec cette technologie-là.
Merci beaucoup, Mme Pisano. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir. Valérie Pisano est présidente et chef de la direction du MILA. Et vous le voyez, disons que les changements technologiques sont importants. Il y a Google qui a annoncé qu'elle va présenter aussi des objets d'intelligence artificielle pour, disons, donner plus de tonus à ses moteurs de recherche, puis très conscient de la présence de compétition maintenant, mais ça va où, puis dans quelle direction? Et puis il y a des gens qui trouvent ça un peu, théorique, mais c'est très, très pratique. Vous pouvez partir des conflits entre des ethnies dans des pays, par exemple, avec la création de fausses nouvelles. Vous pouvez partir des émeutes dans des villes si vous êtes capable de faire la distribution d'images complètement fausses, mais qui sont tellement réelles que les gens pensent que c'est vrai. Alors, on verra la réponse du gouvernement fédéral là-dessus.
C'est 23.